soir clôture le 27 juillet dernier à Washington aux États-Unis d'Amérique de la 19e conférence internationale sur le sida. Avec environ 1 million de personnes vivant avec le VIH-Sida, dont 10% seulement ont accès au traitement, la RDC est classée parmi les pays prioritaires dans la lutte contre le sida selon le Fonds mondial. Comment analyser cette situation et que faire pour lutter efficacement contre le VIH-Sida en RDC? Pour en parler, nous recevons Dr Augustin Okenge, directeur du programme national de lutte contre le sida PNLS. Dr Okenge, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Dr Jean-Baptiste Sondji, ancien ministre de la Santé, spécialiste en santé publique. Dr Sondji, bonsoir.
Bonsoir.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. C'est Dr Fidel Benda, secrétaire exécutif de l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH, ICOP+. Merci, comme d'habitude, pour vos réactions, chers auditeurs et internautes. Kairi Matembera de Kalimio Katanga, toutes les portes d'entrée du sida sont ouvertes, la violence et la contagion sexuelle, la guerre et la paix, mais la solution reste enfermée dans la responsabilité des dirigeants. Paul Koulou de Fizi au Sud Kivu, il faut commencer par le commencement. Que fait le gouvernement de la RDC pour rendre viables ces structures de santé en équipement et intrants pharmaceutiques? Savez-vous que le test du VIH n'est pas à la portée de tous les Congolais? Nous sommes jeudi 2 août 2012. Merci de votre fidélité.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Il s'est clôturé le 27 juillet dernier à Washington aux États-Unis la conférence internationale sur le sida. Plus de 20 000 délégations de 190 pays y ont participé. Selon le Fonds mondial, avec environ 1 million de personnes vivant avec le VIH-Sida, dont 10% seulement ont accès au traitement, la RDC est classée parmi les pays prioritaires dans la lutte contre le sida. Pour le responsable national qui a dans ses prérogatives la prise en charge des malades et du secteur privé au sein du programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS, le manque des ressources externes et internes sont les deux facteurs principaux à la base de cette situation. Docteur Aimé Mboyo est au micro de Kelin Kouté.
La faible couverture en termes de traitement antirétroviral en RDC relève, n'est-ce pas, de plusieurs facteurs. Le premier facteur explicatif, c'est que de moins en moins, il y a de ressources pour la lutte contre le sida dans le pays, et ce qui fait donc pour acheter le médicament antirétroviraux, le test de dépistage, le réactif de laboratoire pour le suivi biologique, etc., pour former les professionnels de santé, ça veut dire les médecins, pharmaciens, techniciens de laboratoire et les autres, ça demande de ressources. Et comme il y a de moins en moins de ressources, cela se traduit notamment par ces faibles taux d'accès au traitement antirétroviral. Là, j'indiquais donc les ressources extérieures, mais de l'autre côté, le gouvernement qui a clairement exprimé son engagement dans la lutte contre le sida s'apprête donc à mobiliser les ressources budgétaires de l'État pour pouvoir soutenir la lutte contre le sida, notamment pour améliorer l'accès au traitement antirétroviral.
Docteur Augustin Okenge, je rappelle que vous êtes directeur du programme national de lutte contre le sida, PNLS. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez participé à ce forum mondial sur le sida à Washington. Docteur, de manière générale, comment ça s'est passé?
Oui, merci beaucoup. La conférence s'est très bien déroulée. C'était un modèle d'organisation pour une conférence qui a réuni à peu près 23 000 personnes venant de presque 195 pays, réussir à organiser les choses de manière à ce que la participation soit assurée pour tout le monde et les salles soient disponibles pour tout le monde. Et je pense que c'est vraiment un modèle d'organisation avec une facilité de communication offerte à tous les participants, pour soit suivre à distance la conférence à travers les écrans géants qui ont été placés dans les différents halls de la conférence et un accès à Internet à haut débit pour suivre la conférence par Internet. Donc c'était un modèle d'organisation.
Alors quel est le message que la RDC a apporté à cette conférence?
Je voudrais peut-être d'abord revenir au au thème de la conférence pour ça, quoi, que je puisse atterrir par rapport au message de la RDC. Le thème de la conférence, c'est que pour la première fois, les scientifiques estiment qu'avec les niveaux de connaissances actuels en matière de lutte contre le sida, il est capable de mettre fin à la pandémie du sida dans le monde. Et à partir de ce thème, on a demandé aux pays de préparer des présentations à faire au niveau de la conférence par rapport aux différents sous-thèmes liés soit à la prévention, soit à des innovations sur les traitements, les innovations d'approche pour approcher ces rêves, cette vision d'arriver un jour à mettre fin à la pandémie du sida. Et la RDC a donc apporté quelques études qui ont été faites au pays, notamment une approche quelque peu innovante de tester un des groupes vulnérables, cibles et qui véhiculent énormément la transmission du virus dans le pays. Donc une approche qui fait qu'on aille la nuit par un système mobile vers la catégorie des populations qu'on appelle des MSM, c'est les hommes qui font le sexe avec les hommes. Et cette expérience a été menée dans la commune de Bandalungwa et qui a été présentée à l'oral au niveau de la conférence. C'est un des aspects de la participation de la RDC à la conférence.
Voilà, nous allons y revenir, docteur Augustin Okenge. Environ 1 million de personnes vivant avec le VIH-SIDA, dont 10% seulement ont accès au traitement. Selon le Fonds mondial. Vous avez suivi tout à l'heure docteur Imemboyo qui parle des manques de ressources externes et internes qui figurent parmi les causes de cette situation. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui, la lutte contre le sida, c'est une entreprise qui demande beaucoup de ressources. Depuis 2003 que notre pays a commencé à accéder au financement structuré du niveau global pour la lutte contre le sida, le pays a mobilisé suffisamment de ressources qui avoisinent presque 500-600 millions de dollars de la part des partenaires extérieurs. C'est vous dire que cet argent jusqu'à aujourd'hui, si je parle en termes des zones de santé, en termes de la couverture de la lutte, n'a servi qu'à couvrir 239 zones de santé sur les 515 que compte le pays. Ça signifie qu'une bonne partie de la République n'a pas encore accès à la prévention et soins de traitement de lutte contre le sida par manque de moyens pour pouvoir continuer à étendre les activités et couvrir tous les pays. Et même dans les 239 zones de santé où nous sommes présents, la couverture n'est pas totale. Jusqu'à peu, l'essentiel du financement de lutte contre le sida, presque plus de 90% venait de l'extérieur. Vous comprenez qu'avec la crise financière internationale pour le moment, et nous n'avons pas la possibilité de continuer à étendre les activités, mais pour votre information, nous avons pour la première fois cette année-ci un bon signal venant du gouvernement qui, non seulement dans le budget 2012, a mis une ligne budgétaire substantielle pour contribuer à la lutte contre le sida. Et pas plus tard qu'aujourd'hui et hier, nous avons participé à Caritas à l'élaboration du budget de l'État pour introduire le financement national dans la lutte contre le sida.
Docteur Imemboyo a dit qu'il y avait de moins en moins de ressources en RDC affectées dans la lutte contre le VIH-SIDA. 90% de ces ressources, vous l'avez dit, viennent des partenaires extérieurs. Mais on se souvient qu'à un moment, Docteur Augustin Okenge, il s'était posé de problèmes de gestion même de ces fonds. Les partenaires s'étaient quand même plaints de la mauvaise gestion aussi.
Je ne sais pas de quel fonds il s'agit parce que jusque-là, le pays a eu 3 grandes sources de financement. Il y a une première source qui est venue de la Banque mondiale, qui était gérée par le PNMLS, et le projet est terminé. Et l'évaluation du projet est en cours. On attend les résultats finaux pour nous dire les impressions de la Banque mondiale par rapport au financement de ce projet. Et la deuxième plus grande source de financement, c'est le financement du Fonds mondial. Il y a quelques temps, bien sûr, le financement a été gelé parce que il y avait des rumeurs de mauvaise gestion. Le Fonds mondial a diligenté une mission d'enquête. Il s'est avéré que c'est beaucoup plus par la société civile, par les ONG, que le fonds était mal géré. Mais aussi, après l'enquête, la hauteur de perdition financière n'était pas aussi importante qu'on s'était imaginé au départ. La preuve, c'est que maintenant, là, on a repris totalement avec le Fonds mondial.
Il semblerait que lorsque ces fonds arrivent, la plus grande partie, c'est dans le fonctionnement, dans les voyages, dans l'achat des matériels de bureau, etc.
Non. Et jusqu'à un passé récent, peut-être jusqu'aujourd'hui, le fonds n'a jamais été géré par la partie gouvernementale. Le fonds mondial était totalement géré par le PNUD. Et le PNUD avait contracté pour la mise en œuvre avec ce qu'ils appellent les sous-bénéficiaires, donc les ONG. Les fonds donc passaient directement du PNUD aux structures d'appui à la mise en œuvre qui étaient les ONG, et la partie gouvernementale recevait un petit montant pour lui permettre de jouer son rôle régalien, c'est-à-dire d'assurer le suivi des activités sur le terrain, voir si les activités se font conformément aux normes nationales. Mais le pays n'a jamais géré directement ces fonds.
Docteur Jean-Baptiste Sondji, vous êtes ancien ministre de la Santé, spécialiste en santé publique. C'est le 19e forum mondial sur le sida. Visiblement, certains observateurs dénoncent le fait que nous allons de forum en forum, mais apparemment sur terrain, ça n'évolue pas tellement. Quel est votre point de vue?
Oui, d'abord, un problème de santé qui concerne la population congolaise ne devrait pas trouver sa réponse principale dans les forums internationaux. Les forums internationaux devraient constituer un moyen pour essayer de partager les expériences des uns et des autres pour améliorer ses propres performances. Chez nous ici, il faut d'abord reconnaître que depuis qu'on a pris ce problème de sida dès le début, notre pays a fait des avancées dont on recueille encore les résultats jusqu'à aujourd'hui. Parce que globalement, lorsque vous regardez, la prévalence du HIV-Sida n'augmente pas. Elle est relativement stable dans notre pays autour de 5%, ce qui est quand même extraordinaire dans un pays où il y a de désordre, même si c'est vrai que en ce qui concerne certaines catégories, il y a des problèmes qui se posent. Mais globalement, on peut dire que les efforts qui avaient été commencés depuis les années 80, quand le problème avait été pris à bras le corps, nous le ressentons encore aujourd'hui. Mais évidemment, ce qui est regrettable, c'est que malgré ce potentiel qui existe, qui aurait dû nous pousser à l'avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devions être parmi les leaders dans la maîtrise, en fait, de ce problème. Mais malheureusement, on sent effectivement que il y a quelque chose qui cloche. Aujourd'hui, par exemple, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH fait partie de la prévention du VIH-Sida. Et que aujourd'hui, quand vous regardez en Afrique, la moyenne africaine, c'est surtout autour de 50-60% des gens qui vivent avec le VIH qui sont pris en charge, tandis que chez nous, ce taux ne s'élève qu'à 16%. Ce qui n'est pas normal. Ce qui fait qu'il y a quelque chose, qu'il y a un problème. Donc là, sur le plan organisationnel, je pense que nous devons absolument. Et ici, quand je parle de programme organisationnel, je ne pense pas que ce soit le programme spécialisé, parce que, et aussi d'ailleurs été ministre de la Santé, je peux dire que globalement, nos programmes spécialisés sont extrêmement performants. Ce sont des programmes qui élaborent des stratégies de très grande qualité. On a des hommes de très grande valeur. La preuve est d'ailleurs que très souvent, lorsque ici on ne s'occupe pas d'eux, bah, très souvent les organismes internationaux les prennent. Je me souviens, mon directeur du programme national de lutte contre le PNLS, qui dont
vous parlez du PNLS,
PNLS, oui, le PNLS, bah, il est aujourd'hui dans, il est l'USAID, il est envoyé au Mali ou en Guinée. Donc ceci démontre quand même que nous avons un problème. Nous avons sérieusement un problème. Bien sûr, ce problème ne se répercute pas simplement au niveau de la santé, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que la gouvernance globale du pays, si elle était vraiment bonne, il y a des choses où nous serions en avance par rapport aux autres, mais malheureusement, il y a des sérieux problèmes à ce point de vue-là.
D'après le rapport annuel que l'ONU SIDA vient de publier, en 10 ans en Afrique, on est passé de moins de 50 000 à 6,2 millions de personnes traitées et le nombre de décès annuels a chuté de 1,8 à 1,2 million. Docteur Sondji, vous avez fait allusion aux expériences que la RDC a connues au début même de cette maladie, mais pourquoi on n'a pas pu capitaliser les expériences telles que celles du docteur Louma avec le MMR à l'époque?
Non, les expériences, quand vous regardez, vous lisez tous les programmes de lutte contre le sida, comme tous les programmes du PEV, comme tous les programmes de lutte contre les maladies du sommeil, sont des programmes extrêmement performants, qui sont très bien. Il suffit de les mettre sérieusement en application pour qu'on ait les résultats. Malheureusement, chez nous ici, tel n'est pas le cas. On ne prend pas les problèmes de la santé, comme beaucoup d'autres problèmes aussi d'ailleurs, très au sérieux. C'est-à-dire que nous devons d'abord faire une autocritique sérieuse de nous-mêmes quant à notre façon de prendre les problèmes du pays avec tout le sérieux requis. Regardez, à Kinshasa ici, il y a beaucoup de maisons qui naissent. Il y a beaucoup de gens qui sont avec des millions. Mais est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui, à un moment donné, je ne sais plus il y a combien de temps, je ne sais pas maintenant s'il y en a, on a eu rupture en approvisionnement des antirétroviraux. Mais je ne sais pas si on se rend compte de la gravité d'une telle situation. Comment peut-il y avoir une rupture des antirétroviraux lorsqu'on sait que lorsque vous interrompez le traitement de cette pathologie, eh bien, il peut y avoir des résistances. C'est que souvent, si vous le reprenez beaucoup trop tard, eh bien, les virus sont devenus résistants et qu'en ce moment-là, il faut introduire d'autres médicaments. Donc, c'est un peu une inconscience parce que connaissant le nombre de malades connus, connaissant les délais de livraison, normalement, il ne devrait pas y avoir de rupture de stock d'antirétroviraux. Et là, c'est un problème tout à fait de gouvernance.
De plus en plus d'États se mobilisent, toujours d'après l'ONU SIDA, Dr Sondji. Fin juin, le Kenya, par exemple, a créé un fonds de solidarité en prélevant 1% des revenus de la population. Pourquoi on a toujours l'impression que les anglophones ont un pas en avance par rapport aux francophones, même dans la lutte contre le SIDA?
Je ne peux pas dire que les anglophones sont ici. Je pense que le Congo a été un leader par rapport à ça. Et je viens de dire que compte tenu du fait qu'on ait pris ce problème à bras le corps, nous avons été le leader. Et le fait d'avoir pris conscience de cela, c'est ce qui fait que pendant qu'ailleurs on a des prévalences de 10%, de 15%, moi j'étais une fois quand j'étais ministre, nous étions au Rwanda, on avait une réunion des ministres de la Santé des pays des Grands Lacs, où, vous savez, quand on prend la prévalence, par exemple, des femmes enceintes est considérée comme un peu celui qui représente la prévalence de la population globale. Mais vous savez que pendant que nous ici, la prévalence était de l'ordre global de 5%, au Rwanda, les femmes enceintes avaient une prévalence de 33%. Ça veut dire que un Rwandais sur trois était infecté. Donc nous, on ne peut pas dire que les autres sont nécessairement en avance, mais ce qui est vrai, c'est que nous prenons du retard. Nous prenons de plus en plus de retard et ce retard ne peut pas continuer. Il est temps que nous nous ressaisissions et nous avons les outils qui puissent nous permettre véritablement de rattraper le retard que nous avons accusé jusqu'à ce jour.
Mais on a quand même suivi le docteur Okenge tout à l'heure parler de ce que la RDC a apporté à ce forum de Washington, une étude faite au pays avec une approche innovante. Mais on a toujours l'impression, certaines personnes ont toujours l'impression que la RDC n'apporte jamais rien dans ce forum, mais des choses qui se font.
Non, ça c'est tout à fait faux. Quand vous regardez aujourd'hui les études, par exemple en ce qui concerne la connaissance clinique du SIDA, de la maladie du SIDA, C'est le Congo qui a été le moteur. Prenez toutes les publications, la classification, la connaissance, l'évolution des cliniques, la classification des stades. C'est le Congo qui a été le pionnier. Et aujourd'hui, effectivement, parce que vous savez que le problème de l'homosexualité chez nous ici n'est pas un problème que nous considérons comme un problème courant. Et que donc, nous n'avons pas fermé les yeux sur ça, alors qu'ailleurs, effectivement, on considère que les homosexuels sont des gens qu'il faut mettre en prison, qu'il faut faire ceci. Le Congo, pour une fois, effectivement, dit non. Ce problème, au lieu de l'ignorer, faisons un peu une étude pour savoir qu'est-ce que cela représente chez nous, parce qu'ailleurs, la prévalence la plus importante, et surtout les incidences, c'est tout au niveau des homosexuels. Alors, pendant que, au niveau de la contamination hétérosexuelle, il y a une certaine maîtrise. Chez nous, ici, c'est surtout l'hétérosexualité qui est l'élément, mais on méconnaît la contribution de tout ce qui est homosexuel, parce que nous ignorons les homosexuels et les Congolais. Encore une fois, au lieu de stigmatiser les homosexuels, eh bien, nous disons, écoutez, puisque ce problème, nous ne le connaissons pas jusqu'à ce jour, essayez de voir un peu qu'est-ce qu'il en est au juste. Et ça, c'est encore, nous sommes en avance par rapport donc à tous les autres.
Docteur Augustin Okenge, nous prenons cette réaction qui nous vient de Kalima au Maniema pour vous.
Augustin Mwango, depuis Kalima dans la province du Maniema, cette situation montre bien que le bilan du chantier santé est négatif, contrairement à ce que nous fait voir le pouvoir en place. Et si j'ai fait allusion aux différents financements dont bénéficie notre pays de ses partenaires internationaux depuis les 10 dernières années pour combattre cette pandémie, et la manière dont ils sont affectés pour acheter soit des préservatifs, qui au lieu d'être distribués gratuitement à la communauté, sont soit vendus dans des pharmacies locales, soit ils expirent dans les zones de santé, je me permets de dire qu'il y a un vrai problème de volonté politique en République démocratique du Congo.
Docteur Augustin Okenge, réaction.
Oui, le financement que nous recevons de l'extérieur répond à un besoin
précis,
ordonné et précis de la mise en œuvre. Donc, c'est le financement qui sont dépensés conformément au projet qui a été soumis et accepté par les bailleurs. Et ce financement aussi répond à une logique que Dr Sodji a relevé ici, que le traitement des ARV, aux ARV, c'est un traitement à vie, et quand vous l'avez commencé quelque part, vous ne pouvez pas l'abandonner pour aller continuer quelque part. C'est ce qui fait que l'enveloppe dont j'ai parlé, tantôt là au début de l'émission, on ne l'a pas eu en une fois. On l'a eu une première fois dans le cadre du Fonds mondial Laurent III, qui nous a figé sur un certain nombre de zones de santé. Et quelques années plus tard, quand nous avons mobilisé encore un autre financement, nous étions obligés de consolider dans les mêmes zones de santé, parce qu'il y avait déjà des malades sous traitement, on ne pouvait pas les abandonner. Donc, que les gens disent qu'il y a beaucoup d'argent et qu'il y a des coins entiers qui sont abandonnés, c'est parce qu'il y a une logique dans la mise en œuvre des actes de lutte contre le sida. Il en est de même pour les préservatifs qui sont vendus. Je ne sais pas de quels préservatifs il s'agit, parce que les préservatifs, c'est de matériel commercial que les pharmaciens peuvent acheter par-ci par-là, mais ce qui vient dans le cadre du projet, il y a les préservatifs qui viennent pour une partie être distribuée gratuitement dans les structures de santé et une partie pour être vendue dans ce qu'on appelle le marketing social. Et donc c'est tout à fait logique que ceux qui vont s'approvisionner dans le marketing social, parce qu'il faut recycler ces financements pour renouveler les stocks de préservatifs dans les pays, qu'ils puissent acheter. Mais ceux qui vont se faire dépister gratuitement dans les structures de santé et ils reçoivent, ou bien qui viennent pour les infections sexuellement transmissibles ou autres, ou bien qui viennent pour des consultations prénatales, et ainsi de suite, cette catégorie de la population reçoit gratuitement les préservatifs, parce que c'est comme ça que le projet a été conçu et doit être donc mis en œuvre.
Voilà, la réalisation me signale que nous ne parvenons pas à joindre Dr Fidel Benda, secrétaire exécutif de l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH SIDA ICOP+. Dr Augustin Okenge, d'après toujours le Fonds mondial, le nombre de séropositifs est estimé à 23,5 millions de personnes en Afrique subsaharienne, soit 68% du total mondial. Je voudrais que nous puissions insister. Docteur Sondji l'a dit, vous êtes revenu là-dessus. Quelles sont les conséquences? C'est vraiment à titre pédagogique. Qu'est-ce qui peut arriver lorsque un PVV prend des ARV, arrête le traitement pour reprendre plus tard? Qu'est-ce qui peut arriver comme conséquence?
Ce qui peut arriver comme conséquence pour un PVV qui n'est pas bien contrôlé quand il prend les médicaments pour un temps et qu'il arrête, il y aura ce qu'on appelle le rebond viral, avec possibilité de développer de la résistance vis-à-vis des médicaments qu'il avait pris jusque-là. La conséquence, c'est que on doit changer des lignes de traitement et en ce moment-là, passer à des lignes de traitement beaucoup plus coûteuses. Mais il faut nuancer cela. Il faut nuancer cela parce que actuellement, comme aussi Dr Sondi l'a souligné, et scientifiquement, il y a des études qui ont été faites, notamment en France, qui montrent que quand vous commencez les traitements très tôt à un malade qui n'a pas encore suffisamment de virus enfoui dans les systèmes immunitaires, et quand on commence les traitements beaucoup plus tôt, en France, il y a une expérience qui vient de démontrer que quand on stabilise ces genres de malades, on rend leur charge virale nulle dans le sang, et ces malades-là ne font plus de rebond viral, et il y a tout un groupe de malades qui est suivi en France, et ça fait partie donc de ce qui est envisagé actuellement comme ARV, comme prévention de la transmission du virus, parce que on demandera désormais, fort de ces expériences, et cela en fait le niveau actuel de connaissances, de commencer à soigner très tôt les malades et envisager la possibilité de créer une fenêtre d'arrêter pour voir comment ils vont se comporter dans la vie.
Alors quel est le coût des ARV, docteur Augustin Okenge?
Les coûts des ARV est élevé.
Donc pas à la portée de tous. Ça peut être évalué à combien, par exemple?
Pas à la portée de tous. Dans les pays occidentaux où le produit n'est pas subventionné, le coût d'ARV varie entre 800 et 1000 dollars par mois, par personne. Chez nous, les produits sont subventionnés et nous prenons généralement les génériques. Le coût peut être évalué à entre 30 et 50 dollars par mois par personne. Mais ça, c'est le coût du médicament. Mais les ARV, on ne peut pas entrevoir la prix d'ARV sans entrevoir la possibilité de faire le suivi de ces malades. Ce sont les médicaments qui ont certains effets secondaires, parfois dangereux, et qui nécessitent quand vous mettez en marche ces programmes, que vous mettez en parallèle un programme de suivi des malades pour détecter à temps les effets indésirables et éventuellement les corriger.
Donc on comprend là qu'il n'est pas facile d'être un PVV en RDC.
Non, mais quand nous élaborons un projet à soumettre aux partenaires ou au gouvernement, nous prenons en compte tous ces paramètres. Ça signifie que nous savons que ce malade qui va commencer le traitement, il le prendra toute sa vie et aura besoin de faire des contrôles régulièrement. Et cela est budgétisé dans le projet. Quand vous dites que ce n'est pas facile, ça signifie que ce n'est pas facile avec les niveaux actuels de finances, au niveau global et du niveau mondial, au niveau national. Il n'est pas facile parce qu'il faut beaucoup de moyens pour étendre la prise en charge par les ARV à tous les PVV éligibles aujourd'hui, qui se situent autour de 400 000, et a fortiori, comme le monde est renté de pousser les soignés, toute personne séropositive doit soigner tous les 1 million de Congolais qui sont infectés. Ce n'est vraiment pas facile parce qu'il faut beaucoup de moyens, nous n'avons pas au jour d'aujourd'hui.
Merci docteur Augustin Okenge. Je rappelle que vous êtes directeur du programme national de lutte contre le sida PNLS. Docteur Jean-Baptiste Sondji, vous êtes ministre honoraire de la Santé et spécialiste en santé publique. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu Sud-Kivu.
Matumaini Franklin de Bukavu au Sud Kivu. La lutte contre le sida passe aussi par la lutte contre la pauvreté, car la plupart des personnes affectées par ces fléaux le sont soit par manque de moyens de survie, soit par ignorance. Tout en s'investissant dans la lutte contre le sida, il faut également assurer un emploi rémunérateur et les structures impliquées devraient redynamiser leur stratégie de sensibilisation.
Docteur Jean-Baptiste Assange.
Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Lorsque vous voyez, les indices de pauvreté sont de l'ordre de 71%. Donc, il y a 71% des Congolais qui vivent, qui sont des pauvres, comme il vient de le dire. Les antirétroviraux coûtent extrêmement cher. Donc, quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas beaucoup de chances de vous en sortir. D'où l'importance de la prévention. Et ceci ne concerne pas seulement le sida, ça concerne toutes les autres maladies. Il n'y a pas de raison, on ne peut pas chercher à être malade quand on sait que être malade, nécessairement, ça vous coûte pour recouvrer votre santé. Et là, le problème le plus important, effectivement, c'est le problème du développement. Et là, c'est là que il n'est pas normal qu'un pays comme le nôtre, qui est censé être riche, où tous les prédateurs extérieurs font des milliards, et que notre pays, nous sommes les derniers. Vous savez que depuis le classement mondial sur l'indice de pauvreté, ben nous sommes les derniers. Et ça, ça devait déjà nous réveiller. Comment se fait-il que des petits pays comme le Tchad, des petits pays comme Haïti, des pays en fait qui n'ont rien, sont devant nous et que nous sommes plus pauvres que eux? C'est-à-dire que là, il y a un problème de gouvernance nationale qui est un problème important, et le problème le fondamental, effectivement, c'est la lutte contre la pauvreté qui s'intègre dans une problématique de développement.
Je vais prendre trois auditeurs pour vous, docteur Sondji. Eugène Matembela de Bénignon Kivu, il est illogique de parler lutte contre le sida en RDC avant de parler de paix. Comment peut-on, par exemple, distribuer des antirétroviraux aux hommes et femmes qui sûrement demain seront violentés? C'est un effort inutile. Christophe Moucheng Gezi, il fallait établir d'abord la paix sur tout le territoire du pays avant de dire autre chose. La situation que traverse la RDC est pire que le sida. Avant tout, c'est la stabilité du pays. C'est la guerre qui favorise, entre autres, notamment la propagation du sida. Donc, la guerre égale multiplication du sida en RDC. Lissungi Pépé de Kisangani en province orientale, tant qu'il y a encore des troubles dans certains territoires du pays, surtout à l'est, avec des violeurs partout, c'est très difficile de lutter contre le sida dans ce pays. Luttons d'abord pour mettre fin aux rébellions et pour la vie sociale des Congolais, au lieu d'enrichir les gens pour rien, car il y a eu plusieurs structures, tant nationales qu'internationales, qui ont eu beaucoup de moyens à ce sujet. Mais malgré cela, le sida n'a pas été vaincu, même à 50%, docteur Sondji.
Absolument.
Sida et insécurité.
Absolument. Les gens ont tout à fait raison. Moi, je me souviens que lorsque... vous savez, l'un des moyens pour notre pays de contrôler un peu la prévalence du sida, c'est d'instaurer à travers le pays des sites sentinelles.
C'est-à-dire
Les sites sentinelles, c'est-à-dire des sites où, à travers tout le pays, où on prélève, selon un certain schéma, de manière aveugle, on prélève un peu le sang de ces gens pour voir un peu quel est le taux de prévalence, et notamment les femmes enceintes. Et je me souviens parfaitement bien que vous savez que la prévalence globale, elle est de 5%, elle n'augmente pas beaucoup. Mais lorsque vous comparez à l'époque où nous étions au gouvernement, avant la guerre, Goma, par exemple, la prévalence était aussi de l'ordre de 5% chez les femmes enceintes. Mais après la guerre, cette prévalence est passée de 5 à 20%. Lorsque aujourd'hui vous regardez les femmes violées, la prévalence du sida est de l'ordre de 20%. Donc ça veut dire que la guerre, forcément, dans la mesure où la guerre d'abord, elle nous a amené au Rwanda, la prévalence du sida est beaucoup plus importante que chez nous. En Ouganda, elle est plus importante. Quand les Zimbabwéens sont arrivés ici, la prévalence est beaucoup plus importante. Et puis, ces mouvements des populations, ces déplacements des populations qui créent les promiscuités, ce sont les conditions qui favorisent effectivement des pratiques sexuelles non protégées, qui sont donc des facteurs de prévention. Et en plus de ça, ces gens sont très pauvres. Donc là, je suis parfaitement d'accord pour dire que, effectivement, l'un des facteurs qui contribue à étendre le sida ici chez nous, c'est cette insécurité récurrente. Et là, c'est une interpellation fondamentale. On ne peut pas promouvoir un développement, ni réduire la pauvreté, ni réduire les maladies, tant que le pays n'est pas en sécurité.
Docteur Augustin Okengue, d'après Michel Sidibé, directeur de l'ONU SIDA, les mentalités évoluent dans certains pays francophones. Depuis la fin de la crise post-électorale, par exemple, la Côte d'Ivoire a augmenté son budget alloué à la lutte contre la maladie et développe un plan national de prise en charge des personnes contaminées. Avant la crise, le Mali, pour sa part, avait témoigné son intérêt pour la création d'un fonds national de solidarité spécifique. Et au Niger et au Burkina, des initiatives sont prises pour limiter la transmission de la mère à l'enfant. Pour la RDC, que faut-il pour lutter efficacement contre le sida?
Oui, comme en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tantôt, la RDC a pris conscience parce que, comme je l'ai dit aussi, il y a cette crise financière du niveau international qui fait prendre à beaucoup de nos pays conscience de la mobilisation des ressources internes pour lutter contre le sida. Je vous ai dit que depuis le budget de cette année-ci et le budget qui est en préparation, la RDC met le moyen pour contribuer efficacement à la lutte contre le sida à partir des ressources propres. Les plans auxquels vous faites allusion en Côte d'Ivoire, nous les élaborons aussi. Et aussi, je voudrais vous dire que en matière de la prévention et la transmission du virus de la mère contre enfant, de la mère à l'enfant, notre pays fait partie des pays dits prioritaires pour l'ONU-SIDA. Et nous aussi, nous avons élaboré, nous venons d'élaborer un plan d'élimination de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Nous sommes maintenant au stade de la mobilisation des ressources pour que nous soyons présents au rendez-vous de 2015-2007 pour que notre pays soit compté parmi les pays qui auront réussi à éliminer la transmission du virus de la mère à l'enfant.
Est-ce que, par exemple, docteur Okengue, on sait ici, par exemple, qu'en RDC, la médecine traditionnelle est aussi développée à sa manière. Est-ce que le niveau de la recherche au niveau national permet, par exemple, pourrait permettre la production d'antirétroviraux ici sur place?
À partir de la médecine traditionnelle, je n'ai pas encore connaissance d'une recherche qui a suffisamment évolué jusqu'à la production des antirétroviraux, mais tout ce que je sais, c'est que à Bukavu, Pharmakina avait commencé à produire les antirétroviraux, mais la commercialisation des antirétroviraux produits par Pharmakina a buté encore à quelques difficultés, notamment sa préqualification par l'OMS. Vous savez, pendant longtemps, le monde occidental avait hésité à faire entrer des ARV en Afrique parce que il disait, ce monde occidental, que l'Afrique n'est pas très disciplinée, on va faire entrer les ARV contrefaçons et ça va être à la base d'un rembourdissement des phénomènes de résistance qui risquent de devenir une menace pour le monde. Et l'OMS, qui avait lutté pour l'introduction des génériques en Afrique, avait donné sa garantie à pouvoir assurer la préqualification de tous les médicaments qui seraient commercialisés en Afrique. La préqualification de la matière première, de l'industrie et du produit final que prendraient les malades. Mais Pharmakina a encore beaucoup de difficultés pour faire préqualifier ces produits par l'OMS, mais au niveau du pays, nous avons une industrie capable de produire les ARV.
Docteur Jean-Baptiste Sondji, tout à l'heure déjà vous évoquiez la prévention, vous avez parlé des sites sentinelles, il y a certains observateurs qui pensent que, par exemple pour le cas de la RDC, on pourrait développer un nouveau type de partenariat avec les pays émergents pour la recherche et la production d'antirétroviraux.
Mais oui, comme il vient de le dire, vous savez que notre pays est l'un de ceux qui avait un potentiel énorme dans la production de médicaments. Et aujourd'hui, malheureusement, avec le désordre que nous avons eu, la distribution de médicaments de manière générale est devenue un commerce comme ordinaire, alors que normalement, ça n'aurait pas dû l'être. Et ce problème est un problème de santé publique majeur, dans la mesure où la qualité des médicaments conditionne le résultat sur le traitement. Alors, à partir du moment où l'État n'a pas les moyens de contrôler, justement, de produire d'abord sur place et d'avoir un système de contrôle, vous ne pouvez pas résoudre quoi que ce soit. Donc, notre pays est devenu un peu un déversoir un peu de tout le monde pour toutes sortes de médicaments. Et là, il a raison. Quand l'OMS, ils disent, les autres punitions, le sida, c'est un problème sérieux. On ne peut pas se payer le luxe de distribuer, de mettre dans le marché des médicaments contrefaits qui n'ont pas d'effets. Les effets vont être très graves. Donc, c'est pour cela, moi, je pense que l'État doit se ressaisir et avoir une politique pharmaceutique, non seulement pour les antirétroviraux, mais globalement pour tous les autres médicaments.
Docteur Okeng, je vois extrêmement demander la parole.
Parce qu'il ne faut pas faire de la production locale d'ARV une panacée, parce que vous devez avoir en mémoire l'exemple des Wax chinois qui ont fait tuer nos industries pharmaceutiques de production textile ici. Pour le moment, les ARV sont produits à grande échelle par les sociétés indiennes et brésiliennes, et ils reçoivent des commandes groupées venant du monde entier, et avec ces commandes groupées, ils arrivent à casser énormément les prix. Produire les ARV localement ici, comme la Pharmakina l'a fait, ça signifie qu'elle importe la matière première, elle importe la technologie, et si elle doit produire, elle doit mettre une marge bénéficiaire. En mettant la marge bénéficiaire avec toutes ces importations préalables à la fabrication, il n'est pas sûr que avec le marché réduit de la RDC, Pharmakina les vendrait à moins cher par rapport aux multinationales indiennes et brésiliennes qui fabriquent des génériques.
Nous allons prendre pour vous, docteur Okeng, cette réaction qui nous vient d'un Mbujimayi au Kasaï oriental.
Lambert Mwamba, de Mbujimayi, au Kasaï oriental. J'ai toujours pensé qu'ici, chez nous, le sida fait le bonheur de tous les responsables de services futurs et ONG qui luttent contre sa propagation. Plus le sida se propage, plus eux gèrent ou amassent une grosse somme d'argent destinée à la lutte contre ce fléau. Et certains le détournent même. Souvenez-vous de ce qui se fait encore à l'Est. Plus il y a insécurité et guerre, plus ça fait le bonheur des agents qui se procurent des affaires et qui les brassent même très bien.
Voilà, très brièvement, docteur Okeng, vous y avez largement répondu au cours de cette émission.
Oui, nous, notre souci, c'est d'arriver, comme la conférence vient de le dire, un jour à arrêter le sida. Ce n'est pas pour que nous arrivions sur les dos de personnes qui souffrent de cette infection. Nous l'avons déjà dit, toute notre vie, nous les passons à chercher les financements, à mobiliser les fonds pour soigner ces gens. Et quand nous les mobilisons, ce n'est pas nous qui les gérons. Par exemple, pour le Fonds mondial, il y a des mécanismes de gestion bien établis. Je voudrais rappeler à l'auditeur que l'argent des Blancs, on ne les bouffe jamais. Hein. Quand ils vous donnent son argent, il met en place un mécanisme pour empêcher qu'on les bouffe et il multiplie les audits pour vous contrôler. Qu'il soit garanti que l'argent que nous mobilisons pour leur bien est bien géré à notre niveau.
Et en guise de conclusion, Dr. Okeng, on comprend donc qu'il faut beaucoup d'argent, un budget conséquent pour lutter efficacement contre le sida.
Oui, puisque nous sommes à la conclusion, je voulais faire quelques rectificatifs par rapport à ce que Dr. Sonji a dit. Hein, la prévalence du VIH n'est plus à 5% dans le pays, à
2,5. À 2,5.
Oui, et dans la population générale. Ah, mais ce n'est peut-être pas parce que nous faisons ou nous avons fait des choses extraordinaires. Bien sûr, il y a eu, comme Dr. Sonji l'a dit, cette prise de conscience précoce de notre pays. Pendant que tous les autres pays reniaient le sida, nous avions accepté que le sida existe et nous nous sommes battus pour cela. Mais il y a aussi un fait protecteur important que nous devons retenir, c'est le fait que notre population est presque à 100% circoncis. La circoncision, c'est un facteur de protection énorme. Dans tous les pays qu'il a cités où les prévalences sont élevées, c'est des pays où les hommes ne sont pas circoncis. Bon, il y a aussi le problème de rupture de stock en ARV. Jusqu'à preuve du contraire, pour les malades qui sont sous traitement, le pays n'a jamais connu des stocks pour soigner ceux qui sont malades. On n'a pas suffisamment d'ARV pour étendre les activités, mais pour ceux qui sont malades, les ARV sont sur place.
Docteur Sonji, un mot pour conclure.
Oui, je suis heureux de voir effectivement que malgré toutes les difficultés que nous avons, malgré toutes les guerres que nous avons, Eh bien, la prévalence commence à diminuer. Et c'est vrai, j'ai vu même sur Kinshasa, ça diminue. Ça veut dire que nous avons un réel potentiel de maîtriser cette pandémie. Mais c'est question de volonté politique. Si nous y mettons les moyens, je pense que nous pourrions être parmi les premiers pays qui pourront parfaitement maîtriser cette pandémie.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Malheureusement, on n'a pas pu avoir Dr Fidel Benda qui aurait pu nous faire bénéficier de son expérience. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.